9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bon, on a sorti les personnes âgées avec la neige. C'est pas prudent, ça.
Ta gueule !
Il a bravé la neige.
Petit con !
Comment ça va, docteur Delabo ?
Bah, tu vois, ça va très bien.
J'ai cru que vous allez venir avec votre toque en fourrure et vos moumoutes.
C'est dommage qu'on n'ait pas l'image, parce que je suis en train de lui faire des gestes obscènes dans le genre...
Je sais pas ce qu'ils font avec la neige. Hein. En tout cas, en région parisienne, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il va y avoir de la neige. Et là, on l'attend toujours.
Il n'y a pas un nuage dans le ciel.
Non.
Alors, c'est très marrant.
Il y a un peu de neige ici.
Je réside au milieu de Paris.
Ouais.
Parce que c'est plus pratique pour prendre le bus et le métro. Et bah, c'est vrai, le coin de la place de la Madeleine, c'est génial. Parce que tu as tous les trucs.
Oui, c'est tellement plus pratique. Oui, c'est vrai.
Oui, j'ai un gourbi qui fait 30 mètres carrés. Hein. Vous ne faites pas d'illusions, les amis.
Bon, en Normandie, par contre, c'est une autre histoire.
La radio, ça ne paie pas, je vous le dis, moi.
Docteur Delabo, en Normandie, chez vous, ça paie, c'est autre chose. Hein. Il y a de la neige.
Alors, sur les collines, oui, autour de Rouen. Ouais. D'ailleurs, il faut que je rappelle Guylaine quand on aura fini l'émission pour savoir si elle a pu aller au marché, puisque c'est le jour du marché pour Guilou.
Voilà.
Mais tous les paysans, mais c'est un marché qui est formidable parce que c'est les marchés de périphérie comme ça. Tu as tous les agriculteurs du coin qui viennent. Alors, je peux te dire que plus bio, tu meurs. Hein.
Mmh. C'est bien ça.
Ah, bah oui, c'est vachement bien.
Bon, alors faites attention, ça glisse un petit peu quand même ce matin.
Surtout en périphérie. Dans Paris, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème au milieu. Mais par contre, là, arrivé à Charenton,
ça patine. Hein.
Fallait faire attention.
Voilà, c'est vrai. Docteur Delabo, on démarre avec votre semaine santé. Alors, une question qui revient lundi, faut-il ou ne faut-il pas jeter les citrons ?
Alors, ça m'amuse énormément parce que j'ai lu des articles où le citron était merveilleux, en l'occurrence le dernier que j'ai lu, mais la peau est extraordinaire, vous faites des zestes de citron, vous avez de la vitamine C dedans, etc., etc., blablabla. Et puis dans d'autres, il fallait dire « attention, le citron peut être dangereux ». Alors, parce que le citron est très acide et que ça peut provoquer des problèmes gastriques. Bien sûr, n'importe quelle épice ou condiment peut vous coller mal à l'estomac s'il est trop costaud. Alors, depuis le début de la semaine, j'ai pu lire tout et son contraire sur le citron. Comme par exemple, dans le citron, tout est bon. Et à l'inverse, attention au citron. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce joli fruit bien jaune ? Bof, 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 bof. Tout simplement qu'on fait beaucoup de battage autour d'une agrume, parmi beaucoup d'autres, vraisemblablement pour écouler un stock. C'est bien simple, quand on cessera d'en parler, c'est que le stock mondial aura été écoulé. En attendant, c'est pas facile pour les communs des mortels d'y s'y retrouver. Pour vous faciliter la vie, partez du principe que, comme tous les agrumes, il est bien d'en manger en hiver, mais que, comme tous les fruits, comme contrairement à ce que vous pouvez lire ou entendre ou voir actuellement, surtout gardez-vous bien d'en manger le matin, que ce soit entier ou en jus ou en tout ce que vous voudrez, mais réservez-le au moment du goûter où il sera le bienvenu, car il a des qualités indéniables.
Alors, c'est justement une question que j'ai relevée, qui vous est posée par Mireille, notamment. Alors, qui revenait sur quelque chose que vous avez dit sur le citron. Vous disiez que le citron était très sucré, alors qu'elle remarque que le citron ne contient que 2% de sucre et l'orange en contiendrait 8%.
Donc ça veut dire je suis pas du tout honteux d'avoir dit ça, because il y a autant de pourcentages dans les agrumes et dans le citron qu'il y a d'études de fait. Parce que tout dépend de la variété du citron et de la variété d'orange. Il y a des oranges extrêmement sucrées et d'autres pas du tout, et il y a des citrons extrêmement sucrés et d'autres pas du tout. Donc, restons dos à dos, ma chère Mireille. C'est vrai que dans certaines oranges, il y en a plus que dans certains citrons, mais dans certains citrons, il y en a plus que dans certaines oranges. Conclusion, en fait, allez, avouons-le, je m'en fous. mais non, Philippe, quand je dis je m'en fous, c'est pas ça. C'est que si on veut vraiment avoir la quantité, il faudrait étudier, mettre ensemble toutes les variétés de citron. Et Dieu sait qu'il y en a énormément, contrairement à ce que vous pourriez croire. Entre un citron jaune espagnol ou un citron blanc de je sais plus quelle région, ou un citron français. D'ailleurs, sans vouloir faire cocorico, les citrons de Provence sont parmi les meilleurs du monde. Et la fête du citron, c'est à Nice, je crois, est une fête...
C'est pas Menton.
Ou un Menton, la fête du citron, t'as raison.
Peut-être.
C'est Menton. Oui, Nice, c'est une autre fête, c'est quoi la fête?
Bon, c'est le carnaval.
Menton, oui, ouais. C'est marrant que tu dis ça, parce que j'y ai passé toute ma jeunesse, tous les étés à Menton, et je me souviens plus trop de tout. Bref, il faudrait à ce moment-là avoir rassemblé tout et faire une moyenne. Et là, on verrait si oui ou non, l'orange est plus sucré que le citron, ou si le citron est plus sucré que l'orange. Je persiste à penser et à croire que l'immense majorité des citrons est plus sucré que l'immense majorité des oranges. Mais ça reste à vérifier.
Bien, alors, docteur Delabo, mardi, la fleur d'oranger anti-insomnie.
Bon, sachez d'abord que toute tisane a la capacité assez ennuyeuse de vous obliger à faire pipi toute la nuit si vous en buvez une grande tasse avant d'aller vous coucher. Ça n'est pas pour rien qu'on a appelé populairement ces tisanes sous le vocable le plus explicatif de pisse-mémé.
Une tisane néolithique, comme on disait.
Voilà, et après je me relève trois fois dans la nuit. Et puis, ça n'est pas la seule tisane, soi-disant anti-insomnie. La camomille, par exemple, tisane préférée de ma chérie, Maguilo, ou d'autres d'ailleurs, dont on annonce des vertus soi-disant apaisantes. Soi-disant ou réellement apaisantes, c'est vrai d'ailleurs. Mais, soyons sérieux, il n'y a que la foi qui sauve, comme dit le dicton populaire, ou pour parler comme le corps médical, le plus actif dans ces tisanes, c'est l'effet placebo. Principe fondamental de la méthode Coué, laquelle a inspiré à notre ami Danny Bone le célèbre sketch dans lequel il commence par dire que tout va bien pour terminer en pleurant comme une madeleine. J'adore ce sketch et les mimiques qu'il fait à la fin du sketch sont... Alors, drôle, c'est curieux, on rit du malheur des autres parce qu'on le voit pleurer comme un bon malheureux et on éclate de rire. C'est pas gentil, mais c'est voulu, hein, il en fait exprès. Alors, pour faire simple, ne buvez pas trop juste avant d'aller vous coucher, ne restez pas collé devant la télé à regarder des films d'horreur, ne vous endormez pas le canapé en regardant des niaiseries, et enfin, évitez de boire du café moins de 4 heures avant d'aller dormir, et si vous avez la conscience tranquille et l'âme en paix, vous aurez un sommeil parfait.
Bien, il faut la boire combien de temps avant la tisane pour pas aller faire pipi alors toute la nuit ?
Faut pas en boire trop.
Bah, une tasse, enfin un bol, en général c'est un bol de tisane.
Bon, c'est pas gênant, moi ça me gêne pas, si vous voulez. Il y a deux catégories de gens, ceux qui vont faire pipi dans la nuit et qui ont un mal de chien à se rendormir, ceux qui vont faire pipi comme des zombies,
qui se recouchent et qui se rendorment dans la seconde
qui suit, ce qui est mon cas. Ceux qui a le don d'énerver Guylaine, qui a un sommeil très léger comme la plupart des femmes, et qui me regarde me rendormir en disant mais comment il fait.
Alors mercredi, docteur Delaboue, une question essentielle, pourquoi ne pas changer ses draps est dangereux.
Il commence déjà à rigoler parce qu'il a lu ce que j'avais écrit. Je lis qu'au cours de la semaine, les draps vont se charger de sueur, d'urine, de matière fécale, d'acariens, de poussière. Bon, on oublie tout simplement de dire qu'ils salissent. Ils se salissent de toutes les manières possibles, pas la peine d'aller faire du pipi-caca pour en parler. Et qu'un drap sale, bah, c'est dégoûtant. Mais l'état de nos draps dépendra surtout de si vous vous êtes lavé correctement tous les jours, si vous avez changé de vêtements régulièrement sans attendre qu'ils deviennent raides de crasse. Retenez tout simplement le principe des corps propres dans des draps propres et tu t'iras pour le mieux dans le meilleur des mondes. Plutôt que dans l'immonde, comme c'est plus à l'écrire le journaliste, avec apparemment une certaine gourmandise de civauté.
C'est un peu comme les histoires de brosse à dents. Quelle est la fréquence à laquelle il faudrait changer ses draps ou ses serviettes de toilette? Est-ce qu'il y a une bonne fréquence?
La fréquence dépend de la crasse que tu as déployée et ce que tu as déposé dessus. À l'hôtel, systématiquement, on te change. Autrefois, on changeait toutes les serviettes, systématiquement. Et puis,
maintenant,
ça coûte très cher.
Ça coûte affreusement cher.
Et puis, ça pollue la planète d'une manière délirante. Donc, les serviettes, les grandes serviettes et les petites sont changées quand on les jette dans la douche ou dans un endroit qu'on vous désigne ou dans le bidet quelquefois. Enfin, ça dépend des salles de bain. C'est vrai, là, je reviens de Strasbourg. La grande serviette, on nous l'a changée qu'une fois parce que on se lave très régulièrement, Guylaine et moi. On prend les douches tous les matins ou tous les soirs ou les deux quelquefois. L'atmosphère de Strasbourg est beaucoup moins polluée que l'atmosphère de la plupart des grandes villes. Et c'est pas par économie, mais c'est idiot d'aller jeter une serviette qui est pas sale ou pratiquement pas.
Alors je dis, docteur Delaboue, les pois chiches et les lentilles plus riches en protéines que la viande et le poisson.
Alors, oui, il me regarde et il dit, oui, lâche-toi papy, d'accord. En lisant ça, j'ai eu vraiment le choix. Hurler, pleurer ou tout simplement rigoler. Bon, vous me connaissez, j'ai choisi bien entendu la troisième solution. Quand une chose est idiote, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. En tout cas, il faut vraiment avoir un certain culot pour affirmer une telle hérésie nutritionnelle. J'aimerais que cette dame, soi-disant nutritionniste, mais d'avant tout diététicienne, ce qui n'est pas du tout la même chose, nous explique pourquoi les gros mangeurs de féculents ont un ventre quelquefois monstrueusement gros, contrairement aux carnivores dont le ventre est plat et musclé. Décidément, la bêtise est comme le chien à dents, vous croyez avoir tout arraché, basta, ça repousse de plus belle.
Mais c'est quand même vrai que les pois chiches et les lentilles sont riches en protéines végétales.
Oui, mais végétales, pas animales. Et les protéines végétales ne sont pas les mêmes que les protéines animales, comme te l'a expliqué dans une de ces émissions récemment que j'ai écoutée avec énormément de plaisir, un médecin qui disait des choses extrêmement intéressantes.
Le docteur Édouard Pélissier, qui était lundi, on rediffusera l'émission.
Ouais. Alors, il faut savoir quelque chose. Je vais vous donner un tuyau qui peut vous aider énormément. Vous allez constater, certains d'entre vous, ou femmes, les deux d'ailleurs, ou les enfants, et plus particulièrement les enfants, ont énormément de mal à digérer les féculents. Tous les féculents, que ce soit les pois chiches, les pois cassés, les flageolets, etc., etc., tous ces féculents sont difficiles à digérer, même quelquefois quasiment impossibles pour certaines gens qui me disent « Ah mais ça, je ne peux pas le manger ». Alors j'ai dit « Madame, vous le mangerez sans aucun problème, à une condition, mixez-le ». Si vous mixez ce qui est indigeste dans les féculents, c'est tout simplement leur paroi qui est extrêmement épaisse pour les préserver d'être desséchés. Ouais. C'est une protection naturelle, mais c'est une véritable armure. Si vous détruisez l'armure, le féculent devient... C'est pas du chocolat que tu manges, là ?
C'est pas moi, non.
Ah, c'est pire.
Donc, les féculents, on va revenir aux
oui,
féculents.
Non, mais c'est parce que c'est plus fort que moi. Il faut quand même que je la surveille, notre Zora, parce que...
Oh, non, il n'y a plus à la surveiller maintenant, il faut la laisser. Là, maintenant, au point où elle en est, il faut qu'elle elle peut manger un Twix.
Je suis son papa spirituel et je veille sur elle comme si c'était ma fille. Voilà.
Bon, alors les féculents, docteur Delapeau.
Eh bien, on les digère parfaitement bien quand ils sont mixés, notamment, et alors ça va intéresser les gens qui souffrent, qui ont un intestin fragile ou un intestin douloureux, si vous avez une maladie de Crohn, si vous avez un intestin douloureux pour quelque raison que ce soit, ou si vous avez une diverticulose chronique, une diverticulite chronique, eh bien, sachez qu'en mixant vos aliments, vous allez améliorer extraordinairement l'état de votre intestin. Ça, c'est intéressant, c'est utile.
Docteur Delapeau, alors j'ai lu, peut-être que c'est une bêtise, qu'il fallait les faire tremper dans du bicarbonate.
Alors ça, franchement, tu me poses une question. Mon épouse chérie les trempe dans de l'eau, tout simplement. Le tout, c'est de les tremper suffisamment longtemps. Les tremper dans du bicarbonate, oui, peut-être que le bicarbonate atteint un petit peu la peau, mais c'est pas la peine. Et si l'idéal, c'est pas de rajouter un produit chimique, parce que quoi qu'on en pense, le bicarbonate, c'est un produit chimique, donc moins vous en mettrez, mieux ça vaudra. Ou alors, de façon naturelle, quand vous buvez une eau bicarbonatée, comme le badois, ou la ceinture.
Alors vendredi, une plante qui aide à perdre du poids. Par contre, il va falloir la prononcer.
Là, j'ai rigolé. Décidément, c'est la semaine de la sottise. L'orthosiphon, dont on parle dans l'article, est tout simplement une plante qui permet d'effectuer un drainage naturel, tout comme le bouleau, la prêle et autres plantes que vous voyez dans les drainants. Mais ça n'est pas comme ça qu'on va réussir à combattre un excès de poids et de volume, ces plantes-là. On peut les utiliser naturellement pour aider à réduire une hypertension, par exemple, c'est quand même utile. Mais la seule façon de mettre son corps en bon état n'est pas de maigrir, mais de mincir en apprenant à manger correctement. N'utilisez pas des faux-semblants pour faussement maigrir et pour reprendre du poids. En plus, vous risquez de vous déshydrater si vous faites ça n'importe comment. Il y a une utilité à prendre. Quand je prescris des drainants, j'ai des chronodrainants dans les compléments alimentaires, je les donne à bon escient. Quand quelqu'un vient me voir avec un surpoids de 40 kilos et surtout des jambes très grosses et des cuisses très grosses et des fesses très grosses, il n'y a pas à tortiller, il y a du gras et de l'eau. Les deux vont ensemble, le gras se remplissant très facilement d'eau. Dans ce cas-là, oui, mais pas pour maigrir, pour débarrasser les gens d'un excès d'eau, point final. Ne partez pas du principe que vous allez maigrir et que vous allez pouvoir continuer à faire n'importe quoi en mangeant. Si vous vous gavez de drainants, vous risquez de vous esquinter la santé, c'est tout ce que vous allez obtenir. Et tous les trucs et astuces qu'on débite quotidiennement, sans parler des régimes idiots, ne serviront qu'à enrichir des charlatans de tout.
Et on termine samedi avec une tisane de lavande contre les vertiges.
Oui, alors décidément, cette jolie plante du midi est parée de toutes les vertus. Sa principale qualité reste néanmoins son parfum délicat, qui embaumait le linge de ma grand-mère, soigneusement rangé dans des armoires. Je vous raconte ça et je les vois en même temps, j'ai l'image. J'ai l'image et j'ai l'odeur, dont les portes s'ouvrant en grinçant pour révéler à ma vue émerveillée des draps, des serviettes et des napperons d'une propreté immaculée. Mais également dans d'autres armoires, des chemises en toile de lin, si merveilleusement pliées que j'osais à peine en approcher la main pour caresser leur texture d'une incroyable douceur. Et oui, je n'aime pas seulement rire, j'aime aussi rêver et vous faire rêver avec moi. À la semaine prochaine.
J'ai pas compris si la tisane de lavande était permettait de combattre les vertiges.
Elle est pas plus anti-vertige que moi, je suis archevêque. C'est l'effet placebo aussi, ça.
Ouais.
Bah oui, c'est bien la lavande, mais c'est pas un médicament. Bon. Si vous avez des vertiges, conseil d'amis, faites regarder par un spécialiste. En général, ce sont les ORL. Si jamais c'est un vertige positionnel, si c'est lié à un problème dans vos canaux semi-circulaires, ou si c'est un problème d'une artère. artère, d'une artère, petite artère au niveau de l'oreille, j'aurais pu m'en souvenir, qui est tout à fait particulière. Et ça peut être une pathologie vasculaire, auquel cas, malheureusement, la lavande servira strictement à rien, qu'à vous faire du bien dans la tête.
Bien. C'est un temps à manger de la... C'est un temps à manger de la...
Pizza.
Non, pas de la pizza. C'est un temps à manger de la...
Choucroute.
Non, Berk. De la...
Une bonne aubergine.
Une bonne soupe.
Voilà,
il l'a dit. Eh oui, puisque cette semaine, il fait froid. Et quand il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mange de la soupe. Nous verrons dans un instant avec le docteur Delabeau que penser de cette bonne soupe qu'on mange le soir tranquillement au coin du feu et devant la télévision. Bonne ou mauvaise idée?
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et vous pourrez poser vos questions au docteur Delabeau tout à l'heure, au 01-53-48-3000.
T'as fini de répondre au téléphone, ça va?
Alors non, je m'inquiétais de savoir, parce que docteur Delabeau, pour tout vous expliquer, on a une vie, on a eu quelques soucis techniques cette semaine.
Oui.
Je voulais m'assurer que vous étiez bien à l'antenne pour vos fans.
Oh, bah, du moment qu'on est entre nous, Philippe, c'est le principal.
Non, le principal, c'est qu'on soit avec tout le monde.
Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai.
À la radio.
Si je viens ici, c'est surtout pour
voilà,
vous, donc c'est vous, pour Philippe.
Vous
pour Sora aussi.
Voilà, vous poserez vos questions au docteur Delabeau au 01-53-48-3000, ce qui prouve que vous l'entendez. Mais docteur Delabeau, vous le savez, j'aime bien vous provoquer avec cette question, parce que c'est un temps quand il fait froid. Alors je ne sais pas d'où ça vient, c'est ce besoin qu'on a finalement, dès qu'il fait 0 degré, ou ça commence à neiger, c'est de manger de la soupe. Et je vous ai toujours entendu dire que la soupe, finalement, docteur Delabeau, ça fait grossir. Alors, pourquoi quelque chose où il y a tellement peu d'aliments qui font grossir, ferait grossir?
J'aime pas qu'on dise ça fait grossir. La soupe provoque de la rétention d'eau au niveau des cuisses, des hanches et du ventre. Ça ne fait pas grossir, ça fait grossir certains endroits du corps.
Ouais.
J'ai lu hier un article que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'était formidable. Je ne l'ai pas mis dans la discussion de tout à l'heure. J'aurais pu, parce que techniquement, mais ça correspond justement très bien avec l'histoire de la soupe, j'ai lu ce qu'a écrit une diététicienne qui partait des deux principes totalement anti-scientifiques et anti-biologiques, mais c'est la grande mode actuelle, c'est de croire que. On ne croit pas que, on voit si. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, on ne pense pas qu'on a peut-être trouvé quelque chose, peut-être, mais dans ce cas-là, on commence par le vérifier et on voit si oui ou non c'est vrai. Or, il est vrai que la soupe provoque de la rétention d'eau. C'est pour ça que je vous la conseille, et bien non seulement je vous la conseille, mais je vous ordonne absolument d'en boire pendant les 30 jours de Ramadan. C'est indispensable. J'expliquais ça hier à une de mes patientes à Rouen qui était très étonnée. J'ai dit, mais vous interdisez la soupe et vous nous la donnez, docteur. J'ai dit, non seulement je vous la donne, mais vous avez besoin d'en prendre parce qu'elle va empêcher de libérer l'eau de votre corps et que vous allez ne plus risquer de faire de déshydratation aiguë dans la journée, surtout en été.
Alors, expliquez-nous, docteur Delabeau, comment la soupe, justement, fait...
C'est un véritable aspirateur.
Qu'on retienne l'eau.
La soupe, c'est un véritable aspirateur à flotte. Alors, la plupart des gens me disent, ta question est excellente, parce que la plupart des gens me disent, mais docteur, quand vous me dites que je peux manger des légumes le soir, que je peux les manger sans problème. Oui, bien sûr, vous mangez des légumes, mais vous ne mangez pas l'eau qui va avec. Quand vous faites, qu'ils soient à la vapeur ou qu'ils soient cuits dans de l'eau, ou qu'ils soient même sautés à la poêle, vos légumes perdent énormément d'eau, d'une part, et ils perdent des sels minéraux qui vont se répandre à l'extérieur. Et si vous jetez l'eau dans laquelle les sels minéraux sont apparus, eh bien, vous aurez un légume qui n'a pas trop de sels minéraux et qui est parfaitement digeste parce que la cuisson est une façon utile pour l'être humain de pouvoir manger des légumes sans avoir des flatulences, le ventre qui grossit, etc., etc. Donc, c'est très important. Tout comme, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous mixez, par exemple, des féculents, vous changez complètement la nature de leur absorption et vous faites du bien à votre organisme. Donc, la soupe n'est pas forcément mauvaise puisque je la conseille et même que je la recommande et que je l'ordonne, si je peux dire, pendant le Ramadan. Mais, en dehors du Ramadan, à moins que vous soyez sèche ou sec comme des clous, ça arrive, il y a des gens qui sont perpétuellement déshydratés, auquel cas je leur conseillerais de prendre de la soupe, parce que je n'ai pas l'esprit obtus, je ne dis pas la soupe, c'est l'horreur, je dis la soupe ne peut être utile que dans des circonstances bien particulières. Elle est notamment extrêmement utile pour les gens âgés l'été, en cas de canicule. Une bonne soupe, et de préférence, non pas la nuit, parce que ça risque de faire monter la tension, puisque les sels minéraux retiennent trop d'eau, mais le matin, au petit déjeuner, pas forcément une soupe chaude, dans ce cas-là, ça va être une soupe glacée si on veut, c'est délicieux, et au déjeuner, on peut aussi. Maintenant, quand vous avez froid, je vous signale que n'importe quelle boisson non sucrée et non salée, comme les bouillons par exemple, va vous réchauffer tout autant qu'une soupe. Ce qui vous réchauffe dans la soupe, c'est uniquement la chaleur de l'aliment.
Donc, alors, quelle différence vous faites, docteur Delabo, entre la soupe et les bouillons ?
Il n'y en a aucune.
Bon.
Il n'y en a aucune. Le bouillon, c'est le pire de tout. C'est tout ce qu'il y a de ces minéraux dans la soupe. Donc, c'est la soupe sans les légumes. Mais donc, c'est la soupe sans les légumes, mais avec tout l'intérieur de ce qu'il y avait dans les légumes.
Donc, ce qui est problématique dans la soupe de légumes, c'est pas les légumes,
non,
c'est le bouillon. Si on enlevait beaucoup d'eau, finalement, est-ce qu'on pourrait, et qu'on mixait les légumes?
Ben bien sûr, ben c'est ce qu'on peut faire.
En gardant un petit peu, que c'est un aspect un peu liquide.
Quand tu enlèves, tu peux très bien faire une purée de légumes, tu peux faire une purée mixée de légumes, ce qui est excellent pour les gens qui ont des problèmes intestinaux, parce que c'est pareil pour les légumes que pour les féculents, c'est excellent, et ça ne contiendra pas trop de sels minéraux. Bon, c'est important à comprendre et à faire, si vous voulez, mais il y a des fois où on a une déshydratation importante, il est évident qu'un bouillon va être d'une efficacité extraordinaire. Plus encore, puis en bouillon, c'est encore plus facile à faire qu'une soupe. Hein. Tu mets un bouillon de légumes ou de bazar, le petit cube de légumes, tu me colles ça dans de la flotte, et tu vas immédiatement récupérer ta flotte.
Bon, donc on évite la petite soupe du soir. D'ailleurs, on le sent, d'ailleurs, au bout de deux bols de soupe, on est très très lourd, d'ailleurs.
Ce que tu dis est vrai, mais il y a un test qui est excellent. Si vous prenez de la soupe le soir et que le matin, vous avez du mal à enlever vos bagues, vous saurez que votre alliance ou tout signe que vous pouvez porter autour des doigts, par exemple, ou des bracelets, d'ailleurs, autour des poignets, vous comprendrez pourquoi je vous dis de déconseille de prendre de la soupe le soir. À la rigueur, on pourrait éventuellement le matin, parce qu'on va l'utiliser dans la journée, si vous faites partie des gens qui n'ont pas le temps de boire ou qui ne prennent pas le temps de boire dans la matinée, là, la soupe peut être utile, le matin. Y compris, et c'est pour ça que l'été, je la conseille le matin et le midi, mais jamais le soir. Quand j'étais gériatre, c'était des années avant de devenir nutritionniste, j'interdisais formellement à mes patients d'un certain âge, qui avaient tous de l'hypertension pratiquement, de boire de la soupe le soir. « Oh docteur, vous n'êtes pas sympa !» Je dis « Non, je ne suis pas sympa, mais je n'ai pas envie que vous me réveillez en pleine nuit pour me dire « ça ne va pas, j'ai la tête qui me fait mal ». Ah bon? Bah, j'ai dit, oui, écoutez, je vous donne un traitement pour l'hypertension, vous me prenez de la soupe, là où je mets un diurétique pour enlever la flotte, vous m'en remettez toute la nuit. Arrêtez! Ah oui, ah bon, docteur.
Je vais contourner ma question. Vous dites qu'il faut manger des poissons ou des fruits de mer le soir. Oui. Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, faire une soupe de poisson?
Alors non, parce que ça contient la soupe de poisson, ou alors tu la fais sans sel, mais c'est franchement pas bon.
Ah oui.
Parce que j'ai un client qui me l'a dit ça. La soupe de poisson sans sel, docteur. quand j'étais.
Non, on peut regarder le sel qu'il y a dans les crustacés, par exemple.
Je te signale que quand les gens ont un problème de rétention d'eau important et ou un problème d'hypertension associé et un problème de stéatose, je leur conseille d'acheter les fruits de mer frais et de les cuire eux-mêmes de façon à les mettre sans sel. Parce que sinon, cuit par le poissonnier, il est obligé de rajouter du sel, il en rajoute. Alors, plus la saison est chaude, plus il en rajoute, d'ailleurs, pour pas que ça s'abîme. Le sel est un très très bon conservateur
qualitatif. Bien sûr. Ouais.
C'est un excellent conservateur. La morue salée, ça existe depuis des siècles. Hein. On pêchait la morue, on la salait sur place dans les bateaux pour pouvoir la ramener en bon état. Sinon, on ramenait du poisson qui était pourri. Et ça maintient merveilleusement bien la qualité de l'aliment. Mais, toujours penser à surtout dessaler votre morue si vous avez de la morue salée et la laisser dans l'eau pendant un bon moment. Et en principe, je crois que c'est 3 eaux successives. Et puis surtout, si vous avez de l'hypertension, le saumon fumé, mes petits chéris, je suis désolé, mais c'est pas pour vous. Pas plus que les huîtres.
Pour ce qui concerne la soupe, vous parlez de rétention d'eau.
Oui.
Mais la rétention d'eau, c'est pas grossir finalement?
Mais non, justement, c'est j'ai dit.
C'est pas une prise de poids.
J'ai pas dit que la soupe faisait grossir. Ah si, tu prends du poids. Quand tu ramasses 2 litres d'eau, tu ramasses 2 kilos. Si tu fais les gens qui ont une rétention d'eau de quelquefois 5 ou 6 litres d'eau, c'est spectaculaire. Ceux qui ont vraiment une rétention d'eau, ça se voit très bien. Le premier mois, ils me disent, docteur, c'est incroyable. En l'espace d'une semaine, j'ai perdu 5 kilos.
Bon, puis après, d'ailleurs, ils vous disent, j'ai dégonflé.
Ben, ils ont dégonflé, ils ont perdu. Mais ils n'ont pas forcément beaucoup dégonflé. Hein. La flotte, c'est pervers. Ça se glisse dans tous les tissus. Ça entoure les tissus. Et arrête de rigoler en me regardant, s'il te plaît.
Non, je vous dis, c'est pervers.
Oui. Oui, c'est pervers la soupe. Mais vous êtes les victimes d'un aliment pervers, faites attention.
Est-ce qu'il y aurait des légumes qui rendent moins de sels minéraux que d'autres et qu'on pourrait peut-être conseiller et utiliser?
Oui, mais je vais te dire un truc. Ce qui rend le goût des légumes agréable, c'est justement les sels minéraux. Si tu les enlèves, c'est dégueulasse. C'est ça le problème. Les pauvres gens qu'on met au régime sans sel et qu'on colle avec des légumes à l'eau, mais dont qu'on a d'abord lavé, qu'on a enlevé, alors aïe. T'as déjà mangé dans une iPad? Eh bien, essaie l'expérience une fois. Je peux te garantir qu'après, tu vas pleurer. C'est épouvantable. Dans mon service, à Sotteville, les gens étaient heureux. Pourquoi? Parce que j'avais engueulé le cuisinier en lui disant « Votre nourriture de merde, vous allez me faire une nourriture comme pour vous. » Et c'est pas difficile. Pour savoir, tous les midis, vous allez bouffer ce que vous avez préparé.
Donc, si je vous ai bien écouté, docteur Labo, je vous ai bien compris, évitez la soupe de soir. On peut écraser des légumes pour se faire une petite purée de légumes.
On peut se faire une purée de légumes, bien sûr, après les avoir cuits. Quand on a cuit les légumes, on les a débarrassés de leur excès de sels minéraux, qui n'est pas bien pour le corps humain. Il y en a trop, c'est trop. Et si vraiment on est dingue de soupe ici, et qu'on n'a pas le temps de boire le matin, une soupe le matin peut vous permettre d'économiser de l'eau et de ne pas risquer d'être complètement déshydraté. En principe, vous le savez, on boit 1 demi-litre d'eau à chaque repas. Et on boit en dehors des repas autant qu'on veut. Mais vous avez des gens qui ont du mal à boire correctement. La soupe qui a un goût leur donne une impression différente et donc ils vont la boire beaucoup plus facilement. Très sincèrement, moi je n'aime pas trop l'eau plate. J'ai du mal à la boire. Je préfère une eau un peu pétillante. Alors avec le SodaStream, je suis sauvé, parce que le SodaStream, il y a zéro calorie, il n'y a rien dedans. Donc vous pouvez... Ah, j'en vois qui ont le sourire jusqu'aux oreilles. Tant mieux, parce que vous pouvez faire des SodaStream si vous voulez. Le seul problème, c'est que la machine à fabriquer le SodaStream, elle n'est pas donnée.
Dans la chrononutrition, il y a toujours 2 repas joker par semaine. Est-ce qu'on peut se servir de ces repas joker pour manger de la soupe, ou la soupe, quoi qu'il arrive, est un aliment qu'il faut éviter?
Il y a dans la chrono, et la plupart de vous tous et vous toutes le savez, des interdits, et j'écris méchamment à la fin de mon programme, tout est permis au repas de fête, sauf les interdits. Donc, la soupe faisant partie des interdits, tu as la réponse à ta question, mon cher Philippe.
Bon, vous parlez d'hypertension.
Oui.
Et donc, c'est une question que Jérôme vous pose, Jérôme qui vous a écouté attentivement, docteur Delabo,
il dit que
pour ceux qui souffrent d'hypertension, le sel doit être réduit au maximum, et il ajoute donc, si je vous ai bien écouté, docteur Delabo, le fromage est interdit.
Ah, ça c'est intéressant. Les fromages durs et les fromages bleus sont interdits car ils contiennent un pourcentage beaucoup plus élevé de sel que les fromages mous. Très bonne question, Jérôme. Ça va apprendre à ceux qui ont l'hypertension à éviter surtout de manger du cantal, de l'emmental, du gruyère, du parmesan, c'est le pire de tous, du roquefort, du blot de Bresse, etc.
Je me dis, au prix du parmesan, voilà.
Tous les autres, il y a 467 fromages en France, il y en a même plus encore. J'en ai enlevé une cinquantaine, il en reste encore 417. Ça te va comme variété? Mais bien sûr.
Donc, alors, les hypertendus...
Je te taquine, Zora, mais en fait, c'est vrai, les hypertendus doivent éviter les fromages durs et les fromages bleus. C'est précisé dans tous mes programmes.
D'accord. Et quels sont les autres aliments qu'ils doivent éviter donc, dans la journée, quand ils mangent chrono?
Les poissons fumés, les charcuteries, bien sûr. Halal ou pas halal, on les sale énormément.
Ouais.
Toutes les variétés, tout. Alors bien sûr les huîtres, parce que ça c'est le top du top. Une huître, ça contient l'ucel pour la semaine à peu près.
Même si on a vidé l'eau de mer.
C'est dans l'animal. L'animal est salé. Il contient, il a
c'est
besoin
la chair,
de ça.
Quoi. Ouais.
C'est la chair de l'huître qui est salée. Sinon ça serait dégueulasse. J'ai goûté une fois des huîtres qui avaient été passées à l'eau claire, qui avaient été mises dans l'eau claire pendant une journée entière pour voir ce que ça donnait. C'est dégueulasse. Ça a plus de goût. Et le goût, en fait, il est provoqué par le sel, mais parce que le sel de mer contient énormément d'iode. Et l'iode, ça donne un goût très, très particulier. Tu as certaines variétés d'huîtres qui sont beaucoup plus iodées que d'autres. L'huile de la marraine est beaucoup plus riche en iode que d'autres huîtres.
Donc, on évite ces fromages donc, que vous venez de
citer.
Oui,
c'est l'essentiel.
Les autres fromages sont bien...
Alors, les autres fromages, ils sont moins salés. Ils sont beaucoup moins salés. Ils sont un peu salés. Alors... Jérôme, petite précision pour vous et pour tout le monde. On ne doit pas manger entièrement sans sel. Réduire la quantité de sel, et ça je l'ai lu et j'ai applaudi le cardiologue qui a écrit ça, parce que je lis sans arrêt la presse médicale et tout ce qui se passe, c'est très intéressant, c'est bien d'apprendre. Eh bien, il a entièrement raison. Il faut faire attention, si vous diminuez trop la quantité de sel, vous allez provoquer des carences. le sel de sodium, c'est un élément utile dans le corps humain. Il ne faut pas l'enlever complètement. Et vous risquez de provoquer des déséquilibres parce que vous avez un équilibre permanent dans vos électrolytes. Là, je vais vous faire un peu peur, mais rassurez-vous, ça fonctionne très bien. Votre corps est une belle machine. Les électrolytes, ce sont les éléments qui vont s'équilibrer, c'est-à-dire le magnésium, le chlore, le potassium, le calcium et d'autres éléments en poule, beaucoup plus petite quantité. Il y a un équilibre permanent. Si vous détruisez l'équilibre en exagérant ou en diminuant l'un des électrolytes, vous allez déséquilibrer votre milieu hydrique et c'est pas bon pour la santé. Attention, la grande manie consiste à se gaver d'eau très riche en magnésium. Faites attention, l'excès de magnésium, j'ai vu que la grande mode revenait sur le magnésium après avoir disparu. Méfiez-vous, l'excès de magnésium n'est pas bon.
C'est pas anodin.
Non, c'est pas anodin.
Beaucoup de questions d'auditeurs de Beurre FM hein, qu'on posera dans un instant. Ceux qui réagissent notamment à vos vidéos, puisque vous le savez, les émissions du docteur Delabeau sont filmées. Vous les retrouvez sur la chaîne de YouTube de Beurre FM. Vous pouvez réécouter les podcasts exactement. Faites coucou à la caméra. Et dans un instant, vous interrogez le doc en direct au standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Delabeau qui est là en direct. Hein. Pas peur de la neige, hein. Mais enfin, il faut dire que vous avez une peau de crocodile. Il y avait de la neige un peu.
Dixit, mon épouse chérie.
Oui, vous avez une peau de crocodile, docteur Delabeau. Mais ça vous va bien, en sac, vous finirez très très bien.
Non, j'ai le chapeau de crocodile Dundee, mais j'ai pas la peau.
Enfin, peut-être qu'on fera des chaussures, peut-être qu'il n'y aura pas assez de peau pour faire un, pour faire un sac.
Bon alors, est-ce que le chapeau tient de l'autre côté,
c'est vrai. Alors, je ne sais pas si le standard fonctionne. On a déjà les micros qui fonctionnent, parce que c'est vrai que cette semaine, c'est la joie de vous retrouver en direct. Hein. Nous avons été coupés de micros, donc on a été là avec des émissions, puisque on a toujours des émissions, on appelle des émissions de secours qui sont enregistrées, mais on vous retrouve en direct. Docteur Delabeau.
Je l'ai dit, heureusement, le père Delabeau est arrivé. Delabeau, sans se presser, le plus beau, le parfait. Le doc de labo est arrivé et tout va bien.
Bon, je ne sais pas si tout va bien, mais en tout cas, vous êtes la pépé de labo. Alors, beaucoup de questions des auditeurs. Oui. J'ai relevé des questions que, qu'on doit vous poser depuis des mois, puisque vos vidéos sont diffusées sur la chaîne YouTube de Beurre FM et il y a des commentaires. Alors, ce sont des commentaires de gens qui vous posent des questions, souvent des questions sympathiques, parfois des questions... Je connais votre caractère, qui sont...
Et dans ces cas-là, tu n'aimes pas que je réagisse trop. Oui, je vais être très doux, très gentil.
J'aime quand vous réagissez avec parcimonie et bon escient.
Tu le connais, parcimonie ?
Alors, tiens...
Tu sais que c'est un copain corse.
Ah oui ?
Oui, parcimonie.
Ah oui, mais attention.
Tu connais l'histoire.
Alors ?
Vous avez fait parcimonie, c'est qui celui-là ?
Docteur, Françoise vous a regardé avec beaucoup d'attention, dit-elle. Elle vous a trouvé très très beau garçon. Et elle
ça,
dit,
c'est très gentil, Françoise.
Et elle dit, non, mais là, c'est moi qui rajoute, c'est pour la suite. Bon, alors Françoise, elle vous a regardé, vous a trouvé très beau garçon, mais peut-être qu'elle a la vue qui baisse. Et elle dit, docteur Delabeau,
oui, Françoise.
Il n'y a absolument pas d'explication sur le calcul de la largeur du poignet pour démontrer le poids idéal. Et elle dit, pied à coulisse. Mon œil. Alors, expliquez-nous, docteur Delabeau, comment on arrive, puisque c'est votre méthode, à déduire le poids que devrait faire idéalement une personne en mesurant son tour de poignet.
Vous savez, c'est pas le tour de poignet, c'est la largeur.
Large.
Et le poignet étant ovale, on ne peut pas faire, on pète le tour et ensuite croire, c'est pas une circonférence, c'est un ovale, donc on ne peut pas utiliser le nombre pi pour savoir la largeur du poignet, malheureusement.
Bon.
Donc si vous n'avez pas de pied à coulisse, il faut absolument que vous en dégotiez un. Alors vous allez dans n'importe quel endroit de bricolage et tout, vous regardez, vous prenez le mètre, le pied à coulisse. Et puis, vous mesurez votre poignet, vous reposez le pied à coulisse. Ça ne vous a rien coûté, ça n'a pas coûté non plus à l'entreprise, et tout va bien.
Bon.
Alors,
Mais comment est-ce que vous, à partir de ce chiffre-là, vous arrivez à en déduire le poids idéal que devrait faire une personne ?
Alors, première chose, avant de vous faire des explications mathématiques, j'ai fait l'erreur de ma vie en faisant, et j'en fais non pas amende honorable, mais je suis furieux après moi, j'ai fait une erreur énorme en faisant le calcul du morphotype. Je l'ai rendu public. Et on me l'a volé.
Bon.
Parce que quand on calcule un morphotype... Alors, on ne peut pas se tromper. La chance que j'ai, c'est qu'il faut l'interpréter quand, parce que c'est un outil, le morphotype. Le morphotype sert à savoir quelles erreurs alimentaires vous faites, si vous en faites, et si vous êtes parfait, le morphotype vous le dira également. Ça s'appelle le morphotype Galilée, l'idéal. Après, vous avez toutes les formes
c'est
de corps possibles et imaginables.
C'est quoi un morphotype, docteur?
Le morphotype est la représentation graphique de votre silhouette. Elle me sert, et elle sert à tous mes élèves, à vous guider de façon extrêmement précise. Pour vous donner un exemple, je réponds à une vingtaine de questions qui me sont posées dans le cadre de la-chrono-nutrition.com, qui, ça fait jamais de mal de se faire un peu de pub, et en fait, je donne des fiches conseils, et ces fiches conseils sont basées sur ce que me disent mes élèves, qui me donnent des renseignements extrêmement importants.
Bon.
Pas seulement le morphotype, mais... Alors, c'est simple. La largeur du poignet, c'est tout simplement, ça correspond, je peux le dire puisque ça m'a été volé, et que de toute façon, tout le monde le sait, c'est devenu, vous trouvez des morphotypes gratuits partout. Le morphotype, c'est tout simple, la largeur du poignet, c'est tout simplement, correspond tout simplement à la différence de taille entre chaque poignet de tout le monde. Vous avez une différence de poignet. Normalement, un homme a un poignet moyen de 7 cm de largeur, une femme de 6 cm de largeur. Et pour savoir exactement comment ça va fonctionner, il suffit que vous preniez un multiplicateur de 4, c'est-à-dire l'équivalent d'une taille humaine, l'équivalent de chaque taille, si vous voulez, de 40, 42, 44, 46, etc., etc. Vous multipliez par 4, et vous obtenez le différentiel qui existe entre votre corps à vous et le corps de référence d'une personne d'une hauteur. Quelqu'un d'un mètre 70 doit faire en moyenne 100 de tours de poitrine, 70 de tours de taille pour une femme, 80 pour un homme, 100 de tours de hanche pour un homme 70 kilos et pour une femme 60 kilos. La différence de 10 kilos étant liée aux formes de la femme, chaque centimètre de tour de ventre équivalent à 1 kilo. Et une femme, un corps parfait, pèsera forcément 10 kilos de moins qu'un homme tout aussi parfait.
Docteur Delabo, je vais prendre une personne innocente autour de cette table.
Oui.
Voilà. Ça va, Eddy?
Très bien, merci.
Bon, vous êtes la personne innocente. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit le docteur Delabo sur le tour du poignet?
Entendu.
Non, la largeur, bon sang,
tu vois,
pas le tour.
Vous n'avez même pas compris, vous essayez de me faire des leçons.
Non, mais...
Non, je vous pose une question.
Là, le calcul mathématique est quand même redoutablement compliqué. Mais bien sûr, je l'ai fait, j'ai su le faire, donc c'est quand même pas impossible puisque j'y suis arrivé. Et ce calcul mathématique, il est très loin et très humble par rapport au calcul mathématique qu'a fait le type qui a inventé l'horloge astronomique de Strasbourg, qui est une merveille extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent. Il a mis 30 ans à la faire et j'en reviens, je suis ébloui par l'intelligence de ce type. C'est un type qui a une intelligence égale à celle d'Einstein celle d'Archimède.
Mais le poignet, c'est quelque chose de génétique, c'est quelque chose qu'on hérite.
Justement, il faut que ce soit génétique. Ta hauteur et ta largeur de poignet, ce sont des constituants. Alors, vous avez deux choses. Vous avez... les volumes et vous avez les volumes, le poids et la structure. La structure, ce que j'appelle en rigolant le châssis, c'est papa-maman. Papa et maman vous en donnez un châssis corporel qui est celui-là, avec une certaine largeur de poignet, une certaine longueur des os, une certaine hauteur. Ça, c'est votre châssis. Autour de ce châssis, vous allez mettre une carrosserie. Alors, ça peut être une Ferrari, mais ça peut aussi être un autocar ou un 35 tonnes. Oui, je sais, c'est pas gentil. En fait, je le dis pas méchamment, au contraire, c'est que la carrosserie, c'est vous qui la faites, alors que le châssis, c'est papa et maman. Et c'est grâce au châssis que j'ai pu définir les morphotypes.
Bon, docteur Delabo, Annie vous demande, qu'est-ce qu'on fait des antibiotiques que les animaux absorbent? Vous nous dites de manger de la viande, mais aujourd'hui, il y a énormément d'antibiotiques dans les animaux. Est-ce que ces antibiotiques-là, on les absorbe?
Non, mais attendez, Dieu merci, tous les éleveurs ne collent pas des antibiotiques dans leur nourriture. D'abord, c'est totalement interdit et c'est surveillé. Je vous signale qu'il y a quand même des services vétérinaires extrêmement efficaces en France. Quand ils arrivent à en choper un qui a mis des antibiotiques dans la nourriture de ces animaux, et on le sait très bien, ça se diagnostique très bien, je peux vous garantir qu'on ferme le truc immédiatement. Donc, c'est pas généralité. Ça fait partie des fake news. À entendre certains médias, c'est féminin ou singulier, ou comme on veut, il y aurait des antibiotiques dans toutes les viandes. Dieu merci, non. Mais il y a des voleurs et des truands partout. Il y a des gredins dans tous les métiers. Donc, il y a des gens qui collent des antibiotiques dans la viande pour faire grossir beaucoup plus vite les veaux, par exemple, ou les porcs.
Alors, Héloïse, qui fait partie du club des défenseurs de la patate douce. et qui dit que, docteur de labo, la patate douce, ce n'est pas 90 grammes de glucides, mais seulement 20 grammes de glucides. Donc, elle dit que l'indice glycémique de la patate douce est très bas, beaucoup plus bas que celui de la pomme de terre, et que la patate douce est donc très indiquée dans un régime pour lequel on veut perdre du poids.
Je dois avoir une très mauvaise vue, parce que j'ai lu l'inverse dans des comptes rendus. Moi, je n'invente pas, je ne m'amuse pas à inventer des trucs. J'ai lu une fois que la patate douce, dans un truc, contenait 80%. Alors, si vous me prouvez que c'est faux et que celui qui a écrit ça est un gros menteur, d'accord, moi, je veux bien, je ne vois pas d'inconvénient. C'est pas moi qui... Je ne suis pas ingénieur en patate douce, je l'ai lu. Bon, alors je l'ai lu. Si c'est faux, eh ben tant mieux. Je vais relire pour faire.
J'ai relevé la question d'Héloïse puisqu'elle n'est pas seule. Visiblement, il y a un club de défenseurs de la patate douce qui veut réhabiliter la patate douce et son indice glycémique très bas.
Alors, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Je vais vérifier.
On vérifie pour la semaine prochaine, docteur Delabo.
Je vais vérifier, bien sûr, parce que ça vaut le coup d'être vérifié.
Alors, Marie dit OK, docteur Delabo, pour essayer la chrono, mais quand dois-je prendre mes jus de fruits et mes jus de légumes?
Alors, les jus de légumes, c'est non, et les jus de légumes, je vous dis tout de suite, si vous voulez vraiment réussir à réduire, ça dépend, si vous avez, en général, les gens qui ont du poids à perdre ont une rétention d'eau qui accompagne cette prise de poids.
C'est la grande mode des extracteurs, vous savez, ces appareils.
Les jus de légumes, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais le jus de fruits en lui-même se prend au goûter. L'intérêt du jus de fruits, c'est qu'il contient des vitamines qui ne sont pas du tout les mêmes que dans les légumes. Et l'intérêt, c'est de le prendre au moment du goûter. C'est le moment de la journée où l'organisme est fatigué parce qu'il a travaillé, il a fait énormément de boulot pour métaboliser tous les aliments qu'on lui a donnés le matin et le midi. Il est logique de le récompenser, de lui caresser gentiment la tête en lui disant « C'est gentil, mon petit bonhomme, t'as fait ton boulot, je te donne un grand verre de jus de fruits. » Je recommande d'ailleurs, pour les gens qui ont des problèmes de transit, le cocktail déconstipé au moment du goûter.
Ah tiens, j'ai une question de Michel, qui justement fait partie de la famille des gens que vous venez de citer, qui est elle-même constipée chroniquement.
Oui, et, comme la plupart des femmes. Hein. Malheureusement, ma pauvre Michel, vous n'êtes pas la seule. Hein.
Voilà, et qui demande quel est votre conseil pour lutter activement contre cette constipation.
Alors, on connaît très bien le cocktail abricot sec, figue, Bruno. Le problème, c'est que, pardonnez-moi l'expression, mais ça fait péter comme un roussin. C'est un peu embêté. Un roussin, c'est le nom de certaines variétés d'âne. Et croyez-moi, un âne qui pète, ça pète. Hein.
Ceci dit, si ça peut résoudre la question de la constipation momentanément...
Comme un ballon, je peux te dire, Guylaine a essayé, elle n'a pas continué, parce que c'est horrible. Après, elle ressemble à une montgolfière.
Bon.
En un seul mot, hein, pas en deux mots.
D'accord. Donc, le cocktail déconstipé, docteur.
Alors, ben oui, j'attendais que tu me le demandes.
Oui, je
10 centilitres de jus d'orange, 10 centilitres de jus de pamplemousse, 10 centilitres de jus d'ananas et le jus d'un citron vert pressé.
Bien sûr, c'est frais. Hein. On parle pas
c'est délicieux.
Non, on parle pas de bouteilles ou de.
Ah non, les mélange. Bon, on peut sortir ça de bouteilles si ce sont des jus de fruits corrects qui sont. Alors, les jus de fruits corrects, ce sont tout simplement les jus de fruits qu'on est obligé de mettre en rayon frais parce qu'ils sont naturels.
Justin.
Oui.
Se dit, docteur Delabo, on va quand même pas se taper du fromage chaque matin.
Elle est bien bonne. Si je ne mange pas du fromage un matin, je suis malheureux toute la journée parce que mon métabolisme est dégradé et surtout que mon corps est très habitué à manger une part importante de fromage le matin. C'est très important. Si vous n'y arrivez pas, écoutez, ça c'est un problème un peu particulier. Il y a certaines gens qui n'y arrivent pas. Alors on peut le cacher, on peut utiliser la même quantité de fromage que je conseille. Par exemple, vous mettez 1m70, c'est 100 grammes. 100 grammes de fromage et 50 grammes de pain. 70 grammes de pain si vous êtes à un effort, si vous faites des gros efforts dans la matinée, puisque le pain, c'est l'utilisation immédiate des sucres lents du pain. Ça ne peut pas stocker. Il ne faut pas faire provision de sucres lents avant des efforts, ça ne sert à rien. Il faut les utiliser juste avant l'effort. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez planquer ça dans des crêpes au sarrasin. Vous pouvez cacher la même quantité de poids de pâte ou de pâte à crêpes ou de pâte à tarte que vous utilisez de pâte à pain. Donc, c'est exactement pareil. 50 grammes de fond de tarte, 50 grammes de crêpes de sarrasin. Et vous me planquez ça dedans, vous le cachez, vous pouvez très bien manger des pizzas au fromage le matin si ça vous chante, et vous pouvez très bien manger des gnocchis et autres viennoiseries salées et non pas sucrées.
Alors Claire qui dit, d'après ce que j'ai compris, jamais de lait mais beaucoup de fromage. Le fromage et le lait sont un peu cousins, non?
Non, c'est pas ça. Le fromage et le lait, c'est exactement, c'est comme si vous me disiez le diesel, le fuel est cousin avec le kérosène. Bah oui, le kérosène il est issu du diesel. Mais mettez pas du diesel dans un avion parce que vous allez être déçu. ça va pas trop bien fonctionner. Donc, c'est exactement pareil. Le fromage, il est au bout de la chaîne de fabrication. On est parti du lait, on a fabriqué un aliment, et ça, c'est du génie humain, bravo. Il n'y a pas que des conneries chez l'être humain, oh Dieu merci. Et on aboutit à un aliment qui est débarrassé de son lactose, débarrassé de ses facteurs de croissance, et donc parfaitement utilisable pour l'être humain à tous les âges de la vie. En revanche, le lait est indispensable à la croissance du bébé jusqu'à l'âge de 24 mois. Je n'ai pas dit qu'il fallait que le lait était un poison, j'ai dit que le lait, il était très utile et même extrêmement important au début de la vie.
Abdallah vous demande, quid du kéfir de lait cru bio ?
C'est une
forme de yaourt.
Le problème du kéfir, c'est que, bon, on m'a dit qu'il était fermenté.
Fermenté.
Oui, mais les yaourts sont fermentés aussi. Et la question est, y reste-t-il dans le kéfir, et ça il suffit de regarder, du lactose et des facteurs de croissance. Si le kéfir n'a pas été cuit et qu'il a été fermenté comme un yaourt, malheureusement, il contient encore des éléments qui ne sont pas souhaitables chez l'être humain adulte. Maintenant, s'il y a un rituel du kéfir à tel moment ou telle période de la vie ou à tel repas précis, s'il y a une motivation religieuse, il est évident que je ne veux pas vous empêcher de manger du kéfir, mais s'il vous plaît, ne le mangez ou ne le buvez, je ne sais pas si ça se boit ou si ça se mange, ne le dégustez, comme ça vous avez le choix, de façon très occasionnelle.
Relid vous demande et nous indique, docteur Delabo, qu'elle boit du thé vert après chaque déjeuner. Bonne ou mauvaise idée ?
Ni bonne ni mauvaise, c'est une façon de faire. Ça n'est pas, le thé vert n'est pas dangereux pour la santé. Ça n'est pas forcément le meilleur des thés. On est revenu sur le thé vert. Il y a eu des articles que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt disant pique-pendre sur le thé vert.
Il y a des noms.
Vous savez, le férocement anti ou le férocement pour, ça n'est valable que s'il y a une raison vraiment précise. Je suis anti-lait passé le sevrage parce que c'est un aliment qui va être plus nocif qu'utile. Mais quant à savoir si le thé vert est plus nocif qu'utile, très sincèrement, il y a des gens qui ne le supportent pas, puis il y a des gens qui le supportent très bien. Alors, c'est comme le rooibos. Certaines gens adorent. Moi, j'aime beaucoup le rooibos le soir. J'ai remarqué, je dormais beaucoup.
Qu'est-ce que c'est ?
Le rooibos, on appelle ça le thé rouge, mais ce n'est pas du thé, en fait. C'est une plante aromatique qui est délicieuse. Il y a des goûts très, très différents. Il y a du rooibos rouge, il y a du rooibos foncé, il y a du rooibos très clair. Alors, ça s'écrit d'au moins trois manières différentes. On dit rooibos ou rooibos ou rooibush, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais en soi, c'est une boisson agréable. Je préfère boire du rooibos le soir. J'ai remarqué que je me levais moins souvent la nuit pour aller faire pipi que si je buvais du café, même décaféiné.
Est-ce qu'on termine avec la question de Toufik, docteur Dabo, qui dit bonjour, à vous de vous expliquer comment on peut maigrir du visage, mais moi je voudrais simplement grossir juste du visage, docteur Delabo. Est-ce que c'est possible ?
Oh oui, c'est possible. Mais je vous préviens, le reste va suivre. Si vous grossissez du visage, vous n'allez pas grossir que du visage.
Donc juste du visage, non ?
Non, ça va être un peu compliqué. Vous pouvez, contrairement à ce que j'ai entendu, parce que la diététicienne que j'ai entendue hier, ça m'a horrifié, on peut très bien mincir à des endroits précis du corps. Quand un soi-disant nutritionniste vous dit que c'est impossible, c'est parce que la méthode qu'il utilise pour vous faire maigrir est mauvaise. Pas bonne.
Donc, vous dites qu'on ne peut pas grossir que du visage.
C'est pas ça. On peut grossir du visage.
Mais on va grossir du reste.
On risque de grossir du reste ou de grossir au moins de la poitrine et des seins. Parce qu'on met dans le visage, on met dans les rondeurs du visage tout ce qui est sucré. Ça va dans les seins, ça va dans les fesses et ça va dans la poitrine.
Bien. Il y a d'autres questions. On continuera la fois aux questions des auditeurs, docteur Delabo. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui avec ces temps de neige.
Gentil, hein.
Vous étiez très très bien.
Bon,
formidable. Vous reviendrez la semaine prochaine.
Oui, parce que tu me l'as demandé gentiment.
C'est bien, je suis gentil avec vous. Voilà. Tiens, demain c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera avec vous. Nous parlerons d'islam.
Oui. Hein ? Il n'y manquera pas.
Je l'embrasserai là où vous aimez l'embrasser.
Non, je l'embrasse sur la joue, hein, ça me suffit. Oui, Zora, tu as raison d'intervenir en claquant dans les doigts, dans les mains. Philippe est infernal.
Voilà, attention, ça glisse.
On a du mal à le tenir.
Faites attention.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.